Depuis hier, nous avons continué l'épître aux Éphésiens, même si on ne l'a pas entendu hier, puisque c'était à Saint-Simon et Jude. Et alors aujourd'hui, on a un passage fameux, hein, Éphésiens 5, 21, qui est difficile, ou plus exactement, qui est difficilement audible aujourd'hui pour des personnes qui ont une idée très très légitime et évidente d'une vie parfaitement horizontale. Donc mes paroles sont sévères, j'en ai parfaitement conscience. Je vais m'expliquer. Je veux dire par là que si le terme, la direction, le but de notre vie n'est pas la vie éternelle, n'est pas cette vie qui ne finira pas, qui est une vie de bonheur, de connaissance de Dieu, de connaissance mutuelle les uns des autres, eh bien il y a des paroles dans l'Écriture que nous ne pouvons pas entendre. Ça ne veut pas dire qu'autrefois on les entendait et donc on avait cette idée-là. Il y avait probablement une majoration d'une mauvaise image de Dieu. C'est indéniable. Hein. Mais il faut placer ça dans son cadre. Donc je ne pense pas que Paul soit misogyne. Oui, c'est vrai qu'on peut contextualiser cette affirmation de Paul en disant ben, c'était bon à son époque, mais aujourd'hui, vous comprenez, on a quand même évolué. Mais alors, je voudrais vous dire un truc quand même qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, c'est que c'est une parole inspirée. L'Écriture est inspirée. Alors, si vous ne comprenez pas ce que veut dire inspirée, vous allez retrouver l'audience générale du pape François du 12 juin, ou 11 juin, je ne sais plus, 2024. Il explique la question de l'inspiration dans l'Écriture. C'est pas un poème, hein. Peggy, c'est très très bien, mais c'est pas inspiré. C'est pas canonique. Bon. Et pourtant, Dieu sait que Peggy, je l'apprécie. Hein. Donc voilà, vous voyez, il faut bien recevoir ce texte. Bon, premièrement, ça, à mon avis, c'est ça. Et puis, quand on vient au texte, bien, on pourrait rapidement oublier la première phrase. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Donc, ce qui est impossible, parce que si on est soumis les uns les autres, on n'arrête pas de se soumettre les uns aux autres. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose de statique. Ça y est, je suis soumis, je bouge plus. Non, non, parce que l'autre doit aussi se soumettre à moi, donc il faut que je me soumette à celui qui s'est soumis, et donc il se soumette à celui qui s'est soumis, qui s'est soumis. Alors, pourquoi je dis ça? Pour montrer que la vie spirituelle n'est pas statique, quoi. C'est une action continuelle. On essaie de se recaler continuellement. Alors, on en vient quand même au vocabulaire, hein. Hypotasso, vous pouvez le prendre comme vous voulez, ça veut bien dire en grec mettre dessous. Donc ça véhicule quelque chose d'assez secondaire, ou au moins second, hein, voire péjoratif. Néanmoins, sachez quand même que en Luc 2, 51, quand Jésus revient, a été retrouvé au temple, on nous dit Jésus leur était soumis. C'est ce verbe-là. Donc Jésus sait de quoi il s'agit. Hein? Bien. Et quant aux hommes qui doivent aimer leur épouse, c'est le verbe agapao. Donc ce n'est pas un amour de dilection, c'est un amour divin. L'agapé, ça vient de Dieu. Hein? Donc l'exigence est extrêmement grande du côté de l'homme. Qui l'a très très... Enfin, dont on ne voit pas beaucoup de cas où il y a eu ce respect... Ça arrive parfois, hein, de rencontrer des hommes qui ont un immense respect pour leur épouse, et c'est bouleversant. Parce que, voilà, La charité de Dieu est là pour leur faire poser une attitude et un acte de don de soi à l'égard de leur épouse qui n'est pas accessible à un homme normalement, pas plus qu'à une femme normalement. Quand je dis normalement, c'est depuis le péché originel au moins. Donc, que signifie Paul en fait, hein? Qu'est-ce que Paul est en train de dire là, hein? Maintenant qu'on a trashé les histoires débiles de misogynie, qu'on s'est rappelé que c'est inspiré et que c'est Dieu qui parle, hein? Alors, ben, il prend l'image de l'Église. Alors, est-ce qu'il y aurait un rapport de force? Parce que c'est ça qui nous gêne en fait, hein? C'est quand on entend femme, soyez soumise, on entend il y a un rapport de force. Eh oui, la soumission, musulman, ça veut dire soumis, hein, au cas où vous ne savez pas, hein, en islam, hein, musulman. La soumission, ça veut dire la soumission, on n'a pas besoin de faire un dessin. Hein. Donc, est-ce qu'il y a ça entre l'Église et le Christ? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que nous entendons dans l'Écriture sainte l'épouse de Dieu, la Jérusalem céleste, comme un être soumis? Oui ou non? Ben moi, j'ai pas l'impression que ce soit un rapport de soumission. Donc ça apporte un éclairage. Ça veut dire que la soumission dont parle Paul n'est pas la soumission à laquelle tout le monde pense bêtement. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est à l'image de l'Église par rapport au Christ. Donc il y a toutes les images qui sont véhiculées dans l'évangile, dans le ce qu'on appelle le protoévangile, enfin la Genèse, quoi. Ève qui sort du côté d'Adam, l'Église qui sort du côté du Christ, voilà. Mais cet Adam, il n'avait pas encore commis le péché originel, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Quand Ève est prise du côté d'Adam, plutôt que la côte, c'est le côté, hein, il n'y avait pas de péché à cette époque-là. Hein. Donc, vous voyez, cette histoire de soumission, elle doit être entendue en dehors du péché. Ce à quoi nous n'avons pas accès. Pour nous, la soumission est un rapport de force. Vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. Hein. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Parce que vous voyez, du coup, ce texte qui est imbuvable aujourd'hui pour la plupart de tout le monde, comme dirait l'autre, ne veut pas du tout dire ce qu'on lui fait, ce qu'on veut en croire, quoi. Ça ne peut pas être ça, puisque c'est inspiré. Dieu ne peut pas vouloir un rapport de force. Il veut un rapport d'amour, pas de force. Ou alors de force d'amour, si vous voulez. Donc, je voudrais en venir ensuite, parce que ce mot, quand même, tracasse, hein, soumission, c'est quand même un peu agaçant. Hein. Alors, on va aller regarder ce qu'il y a écrit en syriaque. Donc, le syriaque, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'araméen chrétien. Bon, l'araméen de Jésus, l'araméen palestinien est éteint. Comme le Galiléen, comme le Samaritain, enfin voilà, tout ça c'était des Araméens. Et par contre, a demeuré en Orient, Moyen-Orient, une langue qu'on appelle aujourd'hui le syriaque. Donc il y a le syriaque de l'Ouest, qui a une graphie très, très arrondie, hein, qui ressemble un peu à l'arabe. Et puis le syriaque de l'Est, qu'on appelle aussi le chaldéen, qui est très anguleux. Très. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Hein, très. Alors c'est les mêmes syriaques, sauf qu'il y en a un qui est en haut. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Dalo-ho. Ou bien. Alors, par contre, à l'Est, on dira Dalaha. Bon, voilà, il y a des O ou des A, c'est un peu ça qui va distinguer la prononciation. Et puis quelques consonnes qui ont des prononciations un peu différentes selon les circonstances à cause des règles de grammaire. Bon, tout ça est lié à un schisme entre tous ces je sais pas comment il faut les appeler, enfin ils étaient en Syrie quoi. Et il y a eu un schisme au 5e siècle et ils ont tellement schismé qu'ils ont fait deux alphabets différents. Bien. En fait, je crois que c'est les Jacobites et les Nestoriens. Jacobites étant des monophysites et les Nestoriens étant Nestoriens. Qu'est-ce qui est... Alors, donc, cette version syriaque, c'est potentiellement une rétroversion de la version grecque. Bon. Alors certains, plus ou moins spécialistes, avancent qu'en fait non, pas du tout, elle est originale, originelle. Bon. En tout cas, c'est potentiellement ce qui a été le plus près de ce que Jésus a pu dire. Voyez. Parce que Jésus n'a pas enseigné en grec, mais en araméen. Donc, c'est quand même cousin germain, quoi, voyez. On est plus proche que du grec, qui est une langue extrêmement abstraite. Précise, etc. Bref, tout ça étant dit, et ayant un intérêt assez secondaire, venons-en par contre au mot qui est écrit. Houé aved. Donc, c'est la forme du verbe être, soyez aved. Aved, vous savez, en hébreu, peut-être aussi, ça veut dire serviteur, ça veut dire servir. Donc, mot à mot, en syriaque, qui a écrit « Servez-vous les uns les autres ». Et je trouve ça tout à fait passionnant, parce que du coup, on n'est plus dans un rapport de soumission, mais dans un rapport de service. Se servir mutuellement. Et ça, c'est ce qu'a fait le Christ. Et donc, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit, toujours aller regarder, vous voyez, quand on a une forme, un mot difficile, quoi, c'est comme, n'a rien à voir aujourd'hui, hein, mais il faut haïr sa vie en ce monde. Est-ce que Jésus a pu dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la vie? C'est quoi haïr? C'est très curieux, quoi, vous voyez, parce qu'on ne peut pas se détester, c'est un péché de se détester, hein. C'est pas se détester. Alors, haïr sa vie, c'est quoi? C'est haïr son âme, mais c'est pas possible non plus. Bon, bref, j'arrête ma digression, mais il y a des mots qui sont compliqués parfois. Donc, parfois, on ne trouve pas. Et parfois, il faut aller chercher un peu plus loin. Et voilà. Donc, on est dans le service, finalement, avec cet épître de Paul. Et cela nous amène aussi, je trouve, à l'évangile. Avec le mystère du règne de Dieu. Alors, quel est le lien entre les deux? Moi, j'en vois au moins un qui est précisément l'humilité. Ouais. L'humilité de la croissance du règne de Dieu et l'humilité du service que l'on rend aux autres. Servir le prochain, c'est un acte d'humilité. Qu'il soit époux, épouse, frère, sœur. C'est un acte d'humilité, pas d'humiliation. Hein. Vous voyez, c'est un peu la nuance qu'on pourrait faire entre soumettre et servir. Humiliation, humilité. Voilà. Et donc, c'est l'exemple de la graine de moutarde. Alors, il m'est déjà arrivé d'en parler une autre fois. Sœur Jeanne d'Arc, ce qu'on n'a pas réalisé, c'est une femme. Qui a donc donné une traduction des quatre évangiles, fait remarquer que c'est pas une graine. Alors, vous voyez, là, on a quelque chose de très intéressant, c'est l'apport d'une femme sur une traduction. C'est très important, ça, c'est très très important, parce que il y a des lieux où un homme va presque nécessairement traduire certaines choses d'une certaine manière, alors qu'une femme ne va pas les traduire de la même manière. Il n'y a pas énormément de traductions de Bible faites par des femmes, et c'est très regrettable, je pense. Bon, il n'y a pas un devoir de faire autrement, hein. C'est juste que... Voilà. Et alors, Sœur Jeanne d'Arc fait remarquer que la graine, c'est le fruit. Ce qu'on plante, c'est le grain. Bon, c'est un détail, hein. C'est un détail, mais voilà, on plante un grain et on recueille une graine. Voilà un apport intéressant. En tout cas, donc, dans cette affaire-là, il y a une idée de communion, vous voyez. Pour qu'un grain devienne graine, il faut que la terre s'en soit emparée. Et je trouve qu'on a cette idée de communion entre le Christ et l'Église, et entre l'homme et la femme, quoi. Avec tout le sens que ça peut avoir de donner la vie, hein, évidemment. Mais donc on a une idée de communion, de synergie. Synergie, c'est un mot grec, synergon, l'action ensemble, l'action commune. Voilà. Donc chacun, selon sa vocation, va donner son fruit. Et c'est très très important, c'est pour ça que je parlais de traduction de la Bible. Parce qu'une femme peut donner un fruit différent dans son approche de l'écriture. Il y a des endroits où elle va avoir autre chose, mais voilà. Ouais. Combien de femmes, enfin c'est quand même souvent très très féminin, de faire attention à ce que dans une maison, dans un lieu, hein, les choses soient habitable, quoi. La femme a ce don de rendre les choses habitables. Alors je généralise. Ça existe aussi chez des hommes, mais c'est beaucoup moins fréquent. L'homme, il vit là où il est, quoi. Alors que la femme, elle a beaucoup plus le souci d'arranger les choses, de les rendre habitables. C'est un service, ça. C'est un service qu'elle rend. Vous voyez, l'intérêt, c'est pour revenir à Paul, c'est de ne pas être dans cette soumission, je rends compte à Dieu de mon action vis-à-vis de mon mari, par exemple. Et l'homme rend compte à Dieu de son amour, de sa charité vis-à-vis de son épouse. Il n'y a pas de rapport de force. Hein. Toujours quand il y a une impression de rapport de force, c'est qu'on a oublié de trianguler. Il faut trianguler. La troisième personne, la troisième réalité, c'est Dieu dans cette affaire-là. Si on reste à deux, c'est foutu d'avance. Hein. Voilà. C'est important, cette idée de communion. Voilà. Donc, on a l'humilité de la progression du règne de Dieu et de l'action mutuelle. Voilà. Et dans la première lecture, nous avions aussi l'humilité du service, finalement. Moi, je trouve que c'est une bonne acception. Alors, on pourrait encore dire, bah oui, bah les femmes servaient les hommes, enfin quoi. Voilà, encore une fois, si on reste sur le binôme, on a une vie bien, bien horizontale. C'est juste intolérable, hein. Je suis d'accord. Je pense qu'un texte comme celui-là, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas la foi, ce serait intéressant de lui dire, tiens, lis ça et ça te fait quoi, toi? Toi qui n'as pas la foi, qui ne crois pas en Dieu. Je pense que c'est intéressant. Et ça montrerait précisément une réaction en disant, enfin, c'est complètement suranné votre truc. Ça sort d'où? C'est une secte? C'est quoi? Vous voyez, s'il n'y a pas la triangulation, c'est terminé. On ne peut plus comprendre. On ne peut plus comprendre. Donc ça veut dire que quand il y a une difficulté dans l'écriture, c'est pas. Ça ne doit pas générer une révolte, mais une révolution. Révolution au sens astronomique. Ajoutons quelqu'un. Il manque quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Il manque l'Esprit Saint. Okay. Mais il manque une troisième partie qui est Dieu. Voilà, ça éclaire les choses. Et c'est toujours pareil dans les conflits entre personnes. Un conflit à deux, c'est qu'il manque quelqu'un, quoi. Il y a besoin d'une troisième personne pour modérer, réaxer, orienter les regards, les discussions, prendre du temps. Parfois, le troisième médium, ça peut être le temps, d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément une personne en soi, hein. Ça peut être quelque chose d'autre. Bien, enfin, voilà ce que ce que je souhaitais apporter à ces deux lectures, hein, étant entendu que c'est une interprétation, il y en a des millions d'autres, hein. Puisqu'à chaque fois qu'on lit, on a une interprétation personnelle. Mais je crois que c'est vraiment important de... Enfin, la parole ne peut pas porter à la révolte. Je crois que c'est pas possible, ça. Vous voyez? Parole de Dieu ne peut pas apporter... À la révolution peut-être, mais pas à la révolte, vous voyez, dans le sens où je le disais. Faire bouger, quoi. Voilà.